Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Très bon réveil, très bon lundi. Oui, c'est lundi, mais on est ensemble jusqu'à 9h. On vous accompagne. Soyez les bienvenus dans Apolline Matin, lundi 26 janvier 2026. Une invitée exceptionnelle, notez-le ce matin, Mickaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty, le professeur assassiné en octobre 2020 par un islamiste. Elle a choisi RMC pour prendre la parole à quelques heures du procès en appel des complices du meurtre de son frère. Comment se prépare-t-elle à cette nouvelle épreuve? Qu'est-ce qui a changé en France depuis l'assassinat de son frère? Et puis cette question, faut-il faire entrer Samuel Paty au Panthéon? Mickaëlle Paty donc sera dans ce studio dans moins d'une heure à 7h40. Dans 10 minutes, cette question, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est une proposition qui sera débattue dès aujourd'hui à l'Assemblée. L'ambassadrice nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire sera mon invitée à 7h10. Ce n'est pas en interdisant les réseaux sociaux que l'on stoppera le harcèlement. Voilà son parti pris à 7h10. Je vous attends aussi, vous, que vous soyez d'ailleurs professeur ou parent. Appelez-nous. Est-ce que vous constatez les dégâts des réseaux sociaux autour de vous et chez les plus jeunes? Le 32-16, bien sûr. Et 06 12 424 424 pour le WhatsApp de l'émission. L'invité du face-à-face ce matin, ce sera Raphaël Glucksmann. Est-ce qu'il sera candidat à la primaire de la gauche qui a été lancée par les socialistes et les écolos ce week-end? Raphaël Glucksmann, donc mon invité à 8h30, dans un instant le journal de 7h. RMC, il est 7h, très bon réveil.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La soumission chimique, toile de fond d'un procès ce lundi, celui de l'ancien sénateur Joël Guerriau, accusé d'avoir drogué à des fins sexuelles la députée Sandrine Josso. Les anciens présidents américains Bill Clinton et Barack Obama s'en prennent à Donald Trump après la mort d'un deuxième manifestant samedi à Minneapolis. Et trois nouveaux lots de lait infantile rappelés. Cette fois, c'est la marque française Baby Bio qui est concernée.
Une députée face à son bourreau ce lundi, l'ancien sénateur Joël Guerriau.
Jugé aujourd'hui et demain devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir drogué Sandrine Josso afin de la violer. Une affaire de soumission chimique qui remonte à novembre 2023. Rachel Sadodine.
Tout juste réélu au Sénat, Joël Guerriau invite sa collègue à fêter sa victoire lors d'un dîner chez lui à Paris. À 20h, Sandrine Josso arrive et découvre étonnée qu'elle est la seule convive. Joël Guerriau lui sert alors un verre.
Le champagne n'avait pas le même goût que d'habitude.
La députée comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Elle livre sa version des faits une semaine plus tard sur BFM TV.
Il mettait la lumière très fort. Il abaissait tout à coup. Je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Ce sont les médecins après qui m'ont expliqué que on active en fait l'efficacité de la drogue.
Sandrine Josso ressent des symptômes qui l'inquiètent. Elle a la nausée. Son rythme cardiaque s'accélère. C'est alors, dit-elle, qu'elle aperçoit Joël Guerriau ranger un petit sachet de poudre blanche dans un tiroir de la cuisine.
Je me suis dit, mais Sandrine, il t'a droguée. Sors, sauve-toi.
Avec les forces qui lui restent, elle quitte l'appartement et réussit à prendre un taxi. Le soir même, les analyses toxicologiques de Sandrine Josso révèlent une très forte intoxication à l'ecstasy, drogue retrouvé le lendemain chez Joël Guerriau. Interpellé, le sénateur affirme se l'être procuré pour son usage personnel et l'avoir administré par inadvertance à sa collègue.
Autre procès en appel l'assassinat terroriste de Samuel Paty. 5 ans après les faits, 4 accusés sont rejugés devant la cour d'assises spéciale de Paris, condamnés en première instance à des peines de 13 à 16 ans de réclusion criminelle. Mickaëlle Paty, la sœur du professeur assassiné, sera votre invitée, Apolline, à 7h40 ce matin sur RMC.
7h02 sur RMC, on en vient à cette histoire sordide à Nice.
Le viol d'une nonagénaire, ça s'est passé la semaine dernière dans les quartiers ouest de la ville, agressé par un homme, un Tunisien sous OQTF, interpellé depuis Romaoug. Il a été mis en examen et écroué.
Oui, les faits se déroulent dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Il est environ 4h du matin lorsque le suspect s'infiltre de force dans l'appartement de cette femme âgée de 90 ans avant de la violer à plusieurs reprises, détaille le procureur. La victime prévient les secours, elle présente des blessures aux mains, aux bras, aux jambes. Rapidement, les forces de l'ordre parviennent à appréhender l'auteur des faits. Un homme d'une trentaine d'années, né en Tunisie, testé positif à l'alcool, au cannabis et à la cocaïne. Il reconnaît s'être introduit dans l'appartement, mais nie les faits de viol. Sous le coup d'une OQTF, le suspect était assigné à résidence depuis 2 semaines en Saône-et-Loire. Il squattait un appartement voisin à celui de la victime avec d'autres étrangers en situation irrégulière.
À Nice, toujours le principal suspect dans la mort d'une mère de famille abattue la semaine dernière en pleine rue au volant de sa voiture sous les yeux de son bébé a été mis en examen et incarcéré. S'il refuse toujours de parler, la thèse intrafamiliale reste privilégiée par les enquêteurs qui cherchent à comprendre les circonstances de ce drame. Ils appellent les Américains à se lever, à s'exprimer. Les anciens présidents démocrates Barack Obama, Bill Clinton réagissent à la mort d'un deuxième manifestant à Minneapolis, tué samedi. Alex Pretty, infirmier de 37 ans, abattu de plusieurs balles par la police fédérale. Un millier de personnes se sont réunies dans cette ville du nord des États-Unis pour dénoncer ce crime, mais aussi la répression, Célestin Bougeard, de la police de l'immigration et de ses pouvoirs étendus.
Sur le bord de la route, là où Alex Pretty a été abattu par des agents fédéraux, des centaines de personnes se sont réunies. Autour des bougies et des fleurs, les habitants comme Heidi ne cachent pas leur colère contre la police de l'immigration.
Ils ne nous aident pas. Ils apportent le chaos et ils doivent partir.
Les policiers fédéraux ont fait 2 morts ici en moins de 3 semaines. Une forme de psychose s'est donc installée dans la ville. La peur de se faire contrôler, de se retrouver au milieu d'affrontements avec ses agents, c'est ce que raconte Jérôme, un Français qui vit à Minneapolis.
De toute évidence, n'importe qui peut se retrouver dans une situation qui est difficile. Donc c'est vrai que j'ai diminué mes déplacements à tout ce qui est absolument nécessaire.
Chez Jérôme monte maintenant la crainte d'une escalade de la violence.
J'ai toujours peur que 1 ou 2, 3 allumés fassent le cap et qui donnent prétexte à une répression plus grande. Mais ceci dit, pour l'instant, je ne vois qu'une amplification de ce mouvement pacifiste.
Dans un discours ce week-end, le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a interpellé en personne Donald Trump, lui demandant de retirer tous les policiers de l'immigration de la ville. Le président a lui accusé l'édile d'encourager une insurrection.
À Paris, ils étaient 2500 hier pour réclamer justice 2 semaines après la mort d'El Hassen Diarra, mauritanien décédé en garde à vue dans un commissariat du 20e arrondissement après une violente interpellation dans cette affaire. Une information judiciaire a été ouverte. Un chiffre effarant ce matin, près d'une agence immobilière sur deux accepte de discriminer un locataire au motif racial. À la demande d'un propriétaire, résultat d'une campagne de tests menée dans 198 agences par SOS Racisme. Le chemin est encore long, répond la ministre déléguée aux discriminations, Aurore Berger, qui annonce une formation obligatoire pour tous les agents immobiliers à ce sujet. On en reparle dans le journal de 7h30.
Nouveau rappel de lait infantile.
Après Lactalis, Nestlé et Danone sont concernés cette fois des laits de la marque Baby Bio Optima du groupe Vita Germine, en cause la présence potentielle d'une toxine produite par certaines bactéries, la céréulide, objet de nouvelles recommandations. Grégoire Morelli.
Oui, le groupe Vita Germine, propriétaire de la marque Baby Bio, dit avoir retiré 3 lots de la vente. Il s'agit de lait en poudre appelé Optima 1, prévu pour les nourrissons de 0 à 6 mois et commercialisé en France entre le 11 septembre et le 23 janvier. L'un des lots concerne des pots de 400 grammes, les deux autres de 800 grammes. Sur son site, la marque appelle donc à ne plus consommer les produits concernés et à bien sûr les jeter. La cause de ce rappel, toujours une possible contamination à la céréulide, une substance qui peut provoquer des vomissements dans les heures qui suivent son ingestion. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, elle peut également entraîner des complications graves, parfois mortelles. Si vous avez un doute sur les lots concernés, vous pouvez consulter le site rappel.conso.gouv.fr.
Pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, les députés sont appelés à se prononcer sur le sujet. Aujourd'hui, texte soutenu par le gouvernement. Emmanuel Macron qui annonce une procédure accélérée avec une mise en application espérée à la prochaine rentrée.
7h06 sur RMC, rien ne va plus à Lille, encore battu hier soir.
Écrasé à domicile par Strasbourg 4-1 en clôture de la 19e journée de Ligue 1. C'est la 5e défaite de rang, toute compétition confondue pour les nordistes en pleine crise, Jean Baumel.
Les sifflets ont retenti fortement dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy. Cette 3e et lourde défaite de suite à domicile passe mal chez les supporters lillois.
C'est un enfer, 5 matchs en enfer. On pensait qu'on allait voir enfin des guerriers sur le terrain, là il n'y a rien. On aimerait bien juste qu'au moins ça joue un peu plus parce que là c'est honteux ce qui s'est passé.
Normalement il faut secouer les joueurs, il faut mouiller le maillot hein, comme on dit, il faut mouiller le maillot.
Les voir comme ça prendre 4-1 à domicile, c'est dur.
À la fin du match, le capitaine Olivier Giroud était abattu mais pas résigné.
Beaucoup de déception évidemment, beaucoup de silence dans les vestiaires. Il y a beaucoup de fatigue voilà, physique, mentale et dans ces moments-là il faut serrer les coudes et c'est ensemble qu'on va se relever.
Le meilleur buteur des Bleus a soutenu son entraîneur, Bruno Genesio, qui a confirmé sa présence sur le banc lillois jeudi soir en Ligue Europa.
Je serai encore là jeudi. En notre métier, il faut toujours être vigilant. Mais je me sens concerné. Je suis avec les joueurs. Je suis au milieu d'eux et non pas au-dessus. Et c'est ensemble qu'on trouvera des solutions.
La fin de semaine s'annonce délicate pour le LOSC avec Fribourg et un déplacement difficile à Lyon dimanche à 15h.
Et Lyon qui cartonne et s'impose 5-2 face à Metz grâce à un triplé du jeune Brésilien Hendrick. À noter les victoires de Nice et Toulouse, match nul et vierge entre le Paris FC et Angers. Et puis Julia Simon signe sa première victoire de la saison en Coupe du Monde, c'est du biathlon. Vainqueur de la Mastart de Nové Mesto devant sa compatriote Océane Michelon de bon augure à une dizaine de jours des Jeux Olympiques d'hiver. Ce sera à vivre à partir du 6 février sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. Interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Proposition de loi qui sera examinée aujourd'hui à l'Assemblée. Est-ce que ça peut permettre d'empêcher le harcèlement à l'école? Bonjour Anne-Lise Debat. Vous êtes ambassadrice nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Pour vous, il faut surtout davantage faire de prévention dans les écoles. C'est votre parti pris, vous nous le dites dans un instant. Et vous qui nous écoutez au 32-16, cette interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, est-ce que vous êtes pour ou contre et qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Je vous attends bien sûr au 32-16, 7h09 sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Interdire le portable au lycée, empêcher les moins de 15 ans d'accéder aux réseaux sociaux, imposer un couvre-feu pour les 15-18 ans. Les députés débattent aujourd'hui de toutes ces propositions. Merci d'être en direct avec nous, Anne-Lise Debat. Vous êtes ambassadrice nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Vous avez vous-même d'ailleurs été victime de harcèlement pendant votre scolarité. Pour vous, interdire les réseaux sociaux, c'est se tromper de problème?
Oui. La première chose, je pense, avant même de vouloir interdire un outil qui est fondamental à la vie des jeunes, c'est bien évidemment la prévention, l'éducation et l'accompagnement, ce qui manque cruellement dans le système éducatif français.
Donc en fait, avant d'interdire les réseaux ou de s'attaquer à des horaires de portable, il faudrait faire plus de prévention et c'est toujours pas le cas?
Tout à fait. L'un des grands problèmes en France, c'est qu'il y a une loi qui existe en France sur le programme phare qui mène donc des actions de prévention dans la France, dans les écoles, collèges et lycées, notamment donc sur le harcèlement scolaire, sur l'utilisation des réseaux sociaux, notamment au travers de l'association e-enfance qui gère également le 3018, le numéro d'aide en cas de harcèlement scolaire. Et pourtant, dans les faits, sur le terrain, il y a encore beaucoup trop d'établissements scolaires dans lesquels il n'y a aucune prévention. Donc beaucoup de jeunes ne savent pas encore utiliser les réseaux sociaux et ils le font sur le tas.
J'entends bien, mais j'ai envie de dire, Anne-Lise Debat, j'entends parfaitement ce que vous dites, mais est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas un peu trop puriste, c'est-à-dire en vous disant il faut vraiment se concentrer sur le harcèlement lui-même, et vous avez bien raison, mille fois raison évidemment, mais est-ce qu'on peut pas faire les deux, c'est-à-dire à la fois faire de la prévention en effet et ne pas bien se passer de ça, mais dans le même temps et en attendant en effet que les jeunes aient les outils comme vous dites pour vraiment décrypter les réseaux sociaux et savoir les utiliser, on les interdit.
Non, parce que là, on met une catégorie de la population sur le côté. Déjà, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans. Si la loi elle était déjà effective, c'est-à-dire si on faisait en sorte de protéger les jeunes qui ont moins de 13 ans actuellement pour que eux ne créent pas de réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on les protégeait au niveau des algorithmes, des modérateurs qui sont bien évidemment manquants sur les réseaux sociaux et notamment en France d'une manière générale, déjà avec une loi qui était vraiment applicable sur le terrain, on pourrait faire en sorte que les violences et le contenu qui peut être violent sur les réseaux sociaux aient moins d'impact sur notre jeunesse. Mais là, on a forcément besoin de prévention, étant donné que les lois applicables ne s'appliquent même pas.
Je suis bien d'accord, on a besoin de prévention. Après, c'est vrai que c'est le point de vue aussi de la maman, moi, qui parle, mais j'ai été très frappée, moi, à un moment, je veux dire, j'ai des ados comme tout le monde. Évidemment que si vous leur dites, je t'empêche d'avoir ton téléphone portable, mais à toi tout seul, et pas aux autres, et pas à tes copains, ça ne marche pas. En revanche, quand ils se sont retrouvés dans des situations où les autres non plus n'avaient pas de portable, alors, finalement, eux-mêmes s'en sentaient parfois soulagés. J'ai l'impression, d'ailleurs, que c'est ce que demandent un certain nombre de parents. C'est votre cas, Nicolas? Bonjour Nicolas. Je voudrais vous accueillir au 32-16 et Anne-Lise Debat aussi reste avec nous. Nicolas, vous êtes parent et je crois que vous avez un enfant qui a 15 ans. Vous avez tenté justement de mettre à distance les téléphones portables, le réseau social. C'est difficile quand on est parent tout seul. Hein.
Ouais, c'est difficile. C'est vrai que nous, notre fils, quand il est rentré au collège, il a eu un téléphone parce que Pronote, parce que le bus, parce que voilà.
Ouais.
Et on s'était engagé avec ma femme à ne pas lui laisser accès aux réseaux sociaux. On a tenu, mais le problème, c'est que derrière tout ça, il y a eu des conséquences. C'est-à-dire que c'était certainement le seul de sa classe à ne pas avoir accès aux réseaux sociaux. Donc forcément, on est arrivé à une situation où il était totalement isolé de ses camarades, isolement social. On était presque arrivé à du harcèlement scolaire parce que c'était un enfant qui était presque pas normal du coup.
Ouais.
Donc,
vous avez fini par craquer.
On a fini. Ouais, alors on essaie de maîtriser quand même avec toutes les applications qui existent aujourd'hui pour voir ce qui se passe sur les téléphones de l'adolescent, mais on a quand même fini par malheureusement, je dis bien, on a fini par craquer. Ouais.
Alors Nicolas, si toute la classe, c'est-à-dire si tous les jeunes jusqu'à 15 ans avaient eu l'interdiction d'avoir ces réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que votre fils, pour le coup, vous auriez pu tenir? Est-ce que vous appelez cette interdiction globale comme une sorte de soulagement ou d'aide pour les parents?
Moi, j'y suis largement favorable parce qu'effectivement, quand il y a que deux ou trois enfants de la classe qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, moi je vous dis, c'est des enfants qui rentrent pas dans les cases. Oui, exactement, ça les stigmatise totalement. Si on a l'ensemble de la classe qui n'a pas accès à ces réseaux, effectivement, derrière, il y aura plus. Je pense qu'on arrivera à éliminer une partie du problème. Voilà.
Effectivement, et la question, c'est de poser un interdit, en quelque sorte. Annelise, sur cette question-là en particulier, c'est-à-dire aussi pour aider les parents à pouvoir lutter, je trouve, honnêtement, moi, c'est mon expérience, je veux dire, à un moment, mon fils s'est retrouvé dans une colonie de vacances où personne n'avait de portable, il le redoutait évidemment, mais en sortant, finalement, il s'est dit, je me suis rendu compte que quand personne n'en a, c'est hyper sympa et il n'y a aucun problème. Le problème, c'est quand il n'y en a qu'un seul qui ne l'a pas, comme en témoigne Nicolas. Est-ce qu'à un moment, ça ne permettrait pas quand même à Nice de repousser un tout petit peu quand même cette apparition du réseau social, de WhatsApp, de Snapchat, qui quand même, à un moment, sont des vecteurs de stigmatisation de l'autre, non?
Le problème, il est humain avant même d'être technologique. Donc,
la technologie n'est que l'outil pour vous.
Exactement. Ce qui est vraiment important, ça va être vraiment d'écouter les enfants, de les éduquer, de leur apprendre ce que c'est que le respect de soi, comment aider les autres, comment partager avec les autres, comment être dans l'empathie, dans la compassion. Le problème, c'est pas de se dire que les réseaux sociaux vont potentiellement avoir un impact négatif avant même de penser éducation,
Vous-même, Annelise, lorsque vous avez témoigné, et vous avez d'ailleurs publié un livre qui s'appelle « La peur au ventre », vous dites avoir été victime de harcèlement, j'allais dire dans la vraie vie, mais également lorsque vous rentriez chez vous, vous aviez également cette angoisse que le harcèlement se poursuive sur les réseaux, un cyberharcèlement.
Oui, bien sûr. Moi, j'avais
c'est une caisse de résonance.
Oui, parce que dans beaucoup de cas de harcèlement, malheureusement, les victimes de harcèlement qui sont déjà harcelées, donc au sein de la vraie vie, à l'école, à l'extérieur, peuvent à la suite être victimes de harcèlement, donc sur les réseaux sociaux. Sauf que c'est un facteur aggravant. Le harcèlement était déjà là.
Bien sûr.
Et d'où l'important, justement, d'éduquer à la bonne utilisation des réseaux sociaux.
Éduquer et faire de la prévention, vous plaidez pour cela. Merci beaucoup Annelise Debat d'avoir été avec nous en direct et merci aussi à Nicolas pour son témoignage. Annelise Debat, vous êtes ambassadrice nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire et je rappelle le titre de votre livre, La peur au ventre, c'est chez City Edition. Il est 7h19 et on va remonter le temps comme chaque matin, sauf que pour une fois, ça n'est pas Arthur Chevalier, c'est vous Thierry Lenz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'historien d'RMC ce matin, vous êtes historien d'ailleurs tout court. Thierry, elle devait être exceptionnelle, la contribution sur les bénéfices des grandes entreprises. Elle a finalement été reconduite pour 2026. Ça ne vous surprend pas ?
Non, parce que c'est une habitude française. Souvenez-vous, la vignette instaurée provisoirement en 1956, elle a duré 50 ans. La France est le pays champion du monde des impôts provisoires. Qui dure,
vous nous en faites l'histoire dans un instant. Il est 7h20, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. On se retrouve dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 sur RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité comme chaque matin, et c'est avec Thierry Lenz. Thierry, notre historien ce matin. Dans le budget 2026, le gouvernement a décidé de faire payer les grandes entreprises avec une surtaxe, environ 8 milliards sur leurs bénéfices. Et pourtant, le gouvernement était formel l'an dernier. Ils avaient promis que cette taxe était exceptionnel.
Oui, c'est en tout cas ce qu'avait promis la ministre du Budget, Amélie de Montchalin, en juin dernier, je la cite, la surtaxe d'impôt sur les sociétés n'existera plus en 2026. Nous sommes en 2026 et la surtaxe survit. Elle survit à cette promesse qui avait pourtant été faite la main sur le cœur.
Une promesse fiscale non tenue, ça c'est pas exceptionnel.
Ah, pas du tout, c'est même une vieille, une très vieille habitude de l'État en France. On peut même la faire remonter à Philippe le Bel qui régna de...
Bon bah de 1285 à 1314 comme chacun sait.
Exactement Apolline, et on peut dire qu'il est le créateur du fisc, administration promise à un grand avenir. Car des recettes, le royaume en avait besoin à un moment où le roi voulait renforcer son pouvoir sur les seigneurs. Philippe le Bel fit feu de tout bois jusqu'à créer un impôt exceptionnel sur l'Église, le plus important propriétaire de France. Il devait durer 2 ans et en dura finalement 17.
Philippe le Bel fut donc le premier mais pas le dernier.
Ah, loin de là. Autre spécialiste des impôts exceptionnels, voici le roi soleil, Louis XIV. En 1710, il a besoin d'argent pour financer la guerre dite de succession d'Espagne, qui dure depuis déjà 9 ans. Il décide de créer un impôt sur tous les revenus fonciers. Tout le monde devra payer et le taux est faramineux pour l'époque, 10%. Mais le roi rassure les contribuables, l'impôt sera exceptionnel et ne vaudra que pour 1 an, puis pour 2, puis pour 3, et on ira jusqu'à 7 ans, jusqu'en 1717.
Si je comprends bien, il ne faut pas croire aux promesses d'impôts exceptionnels ou provisoires.
C'est le moins qu'on puisse dire, l'histoire en est pleine, jusqu'à des époques récentes. Tenez, en 1956, Guy Mollet, alors chef du gouvernement, crée la vignette automobile, payable chaque année sur chaque bagnole. Sur le papier, elle sera entièrement consacrée à offrir un revenu minimum aux plus de 65 ans. On l'a parfois appelée la vignette des vieux. On ne peut pas être contre, d'autant qu'on a promis qu'elle ne durerait pas. Et puis patatras, en 1959, non seulement on la prolonge, mais on décide que les recettes de la vignette seront versées au budget général de l'État, en clair, noyé dans la masse. Adieu le revenu des vieux, mais on continuera à payer. La vignette sera finalement supprimée en 2006.
C'est ce qui va se passer avec la contribution sur les bénéfices ?
C'est probable, vu la situation actuelle. Et pourquoi ces quelques milliards sur 1 an, puis sur 2, ne feraient-ils pas des petits dans les années suivantes ? Au moins, sur le plan des promesses fiscales non tenues, Madame de Montchalin représente, sans trop le savoir, la continuité de l'État. Elle est, si j'ose dire, l'arrière-petite-fille du trésorier de Philippe le Bel, du contrôleur des finances de Louis XIV et de la longue suite des ministres des comptes publics de nos républiques.
Merci Thierry Lenz, donc l'historien d'Apolline Matin ce matin, qui remontait donc la fabuleuse histoire des impôts exceptionnels en France. Arnaud Demanche nous rejoint.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Et bonjour.
Salut Arnaud.
Bonjour. Salut
Arnaud.
Titi, ça mousse.
Ça va.
Ça va bien.
Titi, il est
un nouveau.
Dans le face-à-face, tout à l'heure sur RMC, BFM TV, je reçois le député européen Place Publique, Raphaël Glucksmann.
Eh oui, 4 consonnes et 3%, c'est le futur de Raphaël. C'est méchant, c'est méchant. En vrai, il est à 10-12. Mais le destin des socialistes à la présidentielle, en ce moment, il est taquin, quoi. Il y a un bon baromètre pour savoir si un invité sera oui ou non futur président de la République. C'est le nombre de chefs de notre radio qui l'attendent dans les couloirs pour les saluer. Bon, là, on est encore un peu loin de l'Élysée, mais on s'approche d'un sous-secrétariat d'État au numérique, quand même. Attention ! Ce week-end, les leaders de la gauche se sont réunis à Tours pour annoncer qu'ils organiseraient une primaire commune pour la présidentielle afin de désigner celui qui aura l'honneur de prendre une tôle à 2% au premier tour. Et vous avez vu où ils se sont réunis ? À la salle Jacques Villeray.
Oui.
C'est un beau symbole, je trouve, pour démarrer. Un dîner à la SAC Jacques Villeray. Ça a dû se décider comme ça.
Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain?
Mercredi prochain, rien.
Eh ben, c'est super! On va aller à Tours, écouter votre programme, et ensuite, on écoutera celui de Lucie Castet. On va rigoler! Alors, la gauche, c'était la gauche unie, qui se réunissait, mais unie sans les insoumis, sans Raphaël Glucksmann, sans les communistes. Au PS, ils ont dit oui, mais on verra. En fait, c'est l'union, mais chacun propose une unité différente aux Français. En fait, c'est plus démocratique comme ça. L'unité où on est tous d'accord, c'est du fascisme. Alors, une primaire à gauche, mais sans les deux candidats les mieux placés dans les sondages. C'est un peu comme si j'invitais, je sais pas moi, Mathieu. Tiens, allez, samedi, soirée raclette. Par contre, il y aura ni fromage, ni charcuterie.
Voilà.
Mais
il y a les patates.
Il y aura Raquel Garrido et Olivier Faure. C'est une belle soirée. François Hollande n'était pas convié. Et alors, Bernard Cazeneuve, il y était ou pas? Parce que alors moi je me suis posé la question.
Moi tout le week-end je me suis demandé.
Mais oui, moi ça m'a passionné. Non mais à un moment on parlait de lui, donc je me suis demandé est-ce qu'il était au dîner de Concorde de la gauche. Alors j'ai tapé Cazeneuve dans Google Actu, ça m'a sorti 13 articles, tous intitulés Thierry Cazeneuve, figure du cyclisme, est décédé.
Oh non, voilà.
Condoléances à la famille Cazeneuve, puisqu'ils ont perdu et Thierry et Bernard,
ah oui,
qui a l'air d'être décédé aussi. Mais alors depuis plus longtemps, parce que sur lui, il n'y a rien nulle part.
Ah,
son mouvement s'appelle la Convention, et en fait, c'était la Convention obsèque.
Oh non, bah,
pourtant, à une époque, c'était le chouchou de la gauche, quoi. Il l'appelait mon chéri et tout. Parce qu'il est comme le chocolat, c'est celui qu'on prend quand il reste plus que ça.
Oh non.
Bref, la gauche, elle est comme moi ce matin, elle est malade, sauf que moi en 2027, ça ira mieux. Mais on va analyser tout ça avec Raphaël Glucksmann, ce sera à 8h30, tout à l'heure.
C'était Arnaud Demange, on vous retrouve à 8h20, il est 7h27 sur RMC, ne manquez pas, à 7h40, une invitée exceptionnelle, la sœur de Samuel Paty, Michaël Paty, a choisi RMC pour s'exprimer au matin du procès en appel. Elle sera avec nous donc dans 10 minutes, à tout de suite. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Quand la couleur de peau ou l'origine s'ajoute à la longue liste de critères pour louer un appartement, une pratique illégale est pourtant appliquée dans une agence immobilière sur deux, selon SOS Racisme. Deux d'entre eux sont accusés d'avoir mis une cible dans le dos de Samuel Paty, les deux autres d'être des complices du djihadiste qui l'a tué. Le procès en appel de l'assassinat terroriste de l'enseignant s'ouvre ce matin. Et puis les scandales à répétition ont-ils fini par avoir un impact sur les ventes de l'ultra fast fashion. Elles ont en tout cas baissé de 2% l'an dernier.
Tous les locataires ne sont pas logés à la même enseigne.
À louer, très bel appartement, plein centre, avec terrasse. Mais pour ça, il vous faudra un CDI, trois fois le loyer et la bonne couleur de peau. C'est ce que réclament certains propriétaires. Et dans près d'une agence sur deux, ils trouvent une oreille, disons, clémente, voire compréhensive. Un constat accablant dressé par l'association SOS Racisme, qui a tout simplement fait le test, Romain Hougue, auprès de quasiment 200 structures.
Oui, ce sont des membres de l'association qui se sont fait passer pour des propriétaires désireux de mettre en location leurs biens auprès d'agences immobilières avec un critère bien précis, sélectionner uniquement des profils européens pour éviter des problèmes de voisinage ou encore le bruit et l'odeur, arguent les faux propriétaires. La plupart du temps, l'agent à l'autre bout du fil rappelle le cadre légal qui interdit toute discrimination avant d'expliquer être prêt à passer outre, comme écouté dans cet enregistrement.
On va parler clairement. C'était quoi les locataires? C'est quoi? Ils sont d'origine
africaine, quoi. Ouais.
Ouais, d'accord. Ben je comprends. Maintenant, c'est vrai que vous avez vu quand je vous ai parlé de discrimination, à un moment je vous ai parlé de race, de couleur de peau, de religion. Mais bien évidemment, on sait très bien qu'on n'a pas non plus les mêmes façons de faire. On fera effectivement en sorte de filtrer ça.
Sur 198 agences, 48 ont accepté de faire elles-mêmes un tri des candidats en fonction de la couleur de peau. 48 autres ont accepté de laisser pour le propriétaire faire le tri lui-même. Dans les deux cas, c'était évidemment illégal. En réaction, la ministre déléguée à la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, a annoncé la mise en place d'une formation obligatoire sur les discriminations pour tous les agents immobiliers détenteurs ou non d'une carte professionnelle.
Les précisions de Romain Hougue pour RMC. Encore un millier de personnes rassemblées hier à Minneapolis aux États-Unis pour protester contre les méthodes de leur police de l'immigration, responsable du décès d'un deuxième militant ce week-end. Et ce matin, deux anciens présidents américains sortent du silence, Bill Clinton et Barack Obama, qui appellent tous deux au sursaut. Il est 7h33 et ce sont ceux qui ont été le plus lourdement condamnés en première instance. Ils comparaissent à nouveau aujourd'hui au procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty, l'enseignant d'histoire-géographie décapité devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine par un terroriste islamiste. Pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet plus de 5 ans après cet attentat qui a marqué tout le pays. 4 des 8 condamnés reviennent donc à la barre aujourd'hui, Constance Bostoen.
Oui, il y a d'abord les deux complices présumés du terroriste tchétchène abattu par la police. Ces deux hommes avaient 18 et 19 ans à l'époque. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé l'assassin à trouver une arme et à se rendre sur le lieu de l'attaque. En connaissant ses intentions, ils ont pris 16 ans de réclusion en première instance. Troisième accusé, le père de la collégienne menteuse, celle qui avait accusé Samuel Paty d'avoir discriminé des élèves musulmans lors d'un cours sur la liberté d'expression. Un cours auquel elle n'a jamais assisté. Son père avait relayé ses accusations sur les réseaux sociaux, des propos repris et amplifiés par le quatrième accusé, un prédicateur islamiste, créant ainsi une polémique qui a inspiré l'attentat. Au premier procès, 13 ans de réclusion pour le père de la collégienne, 15 ans pour le prédicateur. La famille de Samuel Paty n'en espère pas moins lors de cet appel.
Verdict attendu le 27 février prochain. Il est 7h34 et la mode éphémère n'a jamais aussi bien porté son nom. Il se pourrait même qu'elle fasse les frais des différentes polémiques qui ont marqué l'année dernière, année durant laquelle les ventes de l'ultra fast fashion ont baissé de 2%. C'est ce que nous apprend ce matin l'Observatoire de la consommation du groupe BPCE. Et vous l'avez constaté, Marion Degas, on sent une forme de lassitude chez les consommateurs.
Lors de sa première commande sur Shein, Inès était ravie.
J'avais trouvé plein de choses qui étaient pas mal et qui étaient du coup dans mon budget.
Mais lorsque les premières polémiques sont apparues, elle a commencé à se renseigner.
Il y a eu plein d'infos sur les conditions de travail, de pourquoi les prix justement sont aussi peu élevés. Du coup, c'était une commande et puis après plus jamais.
Selon BPCE, c'est surtout au deuxième semestre de 2025 que les ventes de l'ultra fast fashion ont diminué. Louise a renoncé à ce type d'achat.
De un, c'est de la surconsommation et de deux, bah, éthiquement, c'est pas ce qu'il y a de plus correct. Ça saute aux yeux, enfin pas de mauvaise foi et de dire qu'il se passe rien, une prise de conscience qui est inévitable.
Une prise de conscience qui pousse beaucoup à se tourner vers la seconde main, c'est le cas de Laurine.
Il y a déjà énormément de vêtements qui ont été créés par le passé et qui peuvent toujours être utilisés, alors que maintenant on va avoir plein de choses très polluantes avec beaucoup de polyester.
Ce recul s'explique par une prise de conscience, mais aussi par le bouche à oreille, explique le spécialiste conso Valère Coréard.
Il y a un effet quand même de viralité qui va effectivement amener à ce qu'il y ait une perte de confiance en fait. Et puis quand vous rajoutez les polémiques, on peut avoir un marché qui se crispe.
Le tout dans un contexte plus restrictif avec la mise en place prochaine d'une taxe de 3 euros sur les petits colis.
7h35, le PSG en tête de la Ligue 1 ce matin et en passe de recruter le très prometteur Dro Fernandez, jeune milieu de terrain du FC Barcelone. Il passera sa visite médicale dans la journée et doit signer à seulement 18 ans un contrat avec Paris jusqu'en 2030, Fabrice Hawkins.
La colère de l'entraîneur du FC Barcelone quand il a appris le départ de Dro Fernandez permet d'évaluer les espoirs qui étaient placés en lui au Barça. À seulement 18 ans et avec 5 matchs en professionnel chez les Catalans, Pedro, dit Dro Fernandez, débarque à Paris. Identifié depuis son plus jeune âge comme un talent rare, l'Espagnol qui a des origines philippines du côté de sa mère est un milieu offensif élégant, même s'il doit encore s'épaissir physiquement pour encaisser les chocs du football d'adulte. Dro Fernandez était courtisé par les plus grands clubs européens, Chelsea et Arsenal notamment. Le rôle de l'entraîneur, Luis Enrique, a été décisif pour convaincre le joueur de choisir la capitale française pour environ 8 millions d'euros. Avec un effectif amoindri par les blessures, on pourrait voir Dro Fernandez rapidement sous ses nouvelles couleurs.
Et puis la déroute continue pour Lille qui a vécu hier soir sa 5e défaite consécutive, toute compétition confondue, battue à domicile 4-1 par Strasbourg. Le LOSC se retrouve à la 5e place derrière Paris, Lens, Marseille et Lyon.
Le quintet, Élise, c'est à 13h55 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est l'As Bayamoun. L'outsider, c'est le numéro 6, Amedras.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
À 10h ce matin, début du procès en appel des complices du terroriste islamiste qui a décapité Samuel Paty. Bonjour Michaël Paty.
Bonjour.
Vous êtes la sœur bien sûr de Samuel Paty. Vous avez choisi RMC pour vous exprimer ce matin avant l'ouverture de ce procès en appel. C'est une nouvelle épreuve évidemment. Certaines voix réclament même la panthéonisation de votre frère pour marquer les esprits. Mais au fond, votre combat, c'est d'abord d'aller jusqu'au bout aussi de la reconnaissance de cet engrenage infernal dont a été victime votre frère. Je vous pose toutes ces questions dans un instant. La France a-t-elle changé depuis la mort de votre frère? La France s'est-elle réveillée? Vous êtes avec nous dans un instant. Il est 7h37.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. 6 ans après l'assassinat de Samuel Paty par un terroriste islamiste, sa sœur a choisi RMC pour s'exprimer ce matin. Bonjour Michaël Paty. Vous êtes donc la sœur de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie assassiné en octobre 2020 à la sortie du collège. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être dans ce studio. Ce matin, c'est le début du procès en appel de 4 personnes impliquées dans l'assassinat de votre frère. Dans quel état d'esprit vous êtes?
Je trouve que c'est peut-être ce procès en appel un moment plus douloureux que le premier, parce qu'en fait, on va devoir réécouter, revivre exactement la même chose. Donc le poids, le coût est beaucoup plus important cette année en fait.
Plus dur encore parce que ça veut dire qu'il va falloir rejustifier en quelque sorte, comme si les choses n'avaient pas été comprises.
Il va falloir rejustifier et notamment il va falloir rejustifier que mon frère avait fait ce cours et qu'il n'était en rien discriminant. Parce que c'est ce qui a avancé par des avocats, notamment de Monsieur Sifrioui, de vouloir quelque part faire un procès à mon frère.
Il faut préciser effectivement que les 4 personnes qui font appel et qui seront donc rejugées à partir d'aujourd'hui, 2 sont des amis complices présumés donc de l'assassin lui-même, Abdullah Anzorov, et 2 autres sont ceux qui ont
ciblé, littéralement mis une cible sur votre frère. Il s'agit à la fois du père de la jeune fille qui avait menti à son père et qui lui avait dit, qui lui avait raconté un cours auquel elle n'avait tout simplement même pas était présente, puisque ce jour-là, elle avait été absente, elle avait inventé cette histoire auprès de son père. Et puis, le prédicateur islamiste dont vous parlez à l'instant, Abdelhakim Sefrioui, qui veut faire le procès même d'un enseignement, en réalité.
Oui, après, il avait fait déjà ça à l'époque. Donc maintenant, ça va juste être porté devant la cour. Et il va essayer de déporter, entre guillemets, ce qu'il considère être un problème pédagogique. Et que c'était légitime de sa part de le revendiquer. Sauf que, en fait, dans les faits, ses dires et ses vidéos ne parlent jamais d'un problème pédagogique, en fin de compte. Ils parlent d'un problème que ça serait un prof islamophobe. En fait, ils sont en train de qualifier mon frère pour qu'il devienne une cible.
Qualifier votre frère pour qu'il devienne une cible, et y compris encore aujourd'hui dans sa mémoire. Michael Paty, vous avez vous-même publié un livre qui s'appelle Le cours de Monsieur Paty. C'est aux éditions Albin Michel. Vous avez pris du temps avant de, j'allais dire presque, de ressortir la tête de l'eau et de vouloir aussi qualifier les choses, y compris pour la France. Je me souviens de cette phrase que vous avez prononcée. Vous aviez dit, on ne tient pas debout dans des pantoufles. Ce que vous vouliez dire, au fond, c'est que face aujourd'hui à la question des principes, de l'autorité, de la laïcité, on avait cédé, comme si on avait désormais plus de structure, comme si nous étions, en effet, comme vous disiez, dans des pantoufles. Et on ne tient pas debout dans des pantoufles. Est-ce que la France a changé depuis? Est-ce que ces alertes, est-ce que la mort de votre frère à réveiller l'éducation nationale et la France?
Je pense qu'on est bien loin d'une quelque forme de réveil. Il aurait fallu que le cours de mon frère fasse consensus, ce qui n'est pas encore le cas. Il y a encore beaucoup de débats par rapport à ce sujet, alors que ça aurait dû être quelque chose qui aurait dû être porté en avant. Et c'est pour ça que ce livre a été créé, pour qu'il y ait au moins le support pour montrer quel cours il avait pu faire et dans quelles conditions.
Et il y a des appels au 32-16, certains pour nous dire qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire ou pas faire, parce que tout est un peu mélangé, religion, éducation. Mathieu, ces messages notamment
de Matt, qui est professeur des écoles. On est avec des élèves plus jeunes que des collégiens. Je peux témoigner de situations ubuesques, qui nous dit-il. On m'a ordonné de ne pas raconter l'histoire des trois petits cochons. Des parents refusent que leur enfant apparaisse sur la photo de classe pour des questions religieuses. Je ne veux pas stigmatiser, j'habite un quartier populaire, je suis un site depuis 22 ans, mais je constate qu'il y a des nouveaux parents, certains qui lient de façon maladroite la religion et l'éducation. Autre exemple, je ne dois pas faire de préhistoire et éviter le darwinisme.
Pas faire de préhistoire?
C'est ce que dit Matt ce matin sur WhatsApp RMC.
Le récit biblique. Il y a Sophie aussi qui nous appelle au 32-16. Bonjour Sophie. Vous
bonjour,
êtes enseignante dans le Loiret. La sœur de Samuel Paty vous entend. Vous vouliez aussi témoigner, vous, au quotidien, Sophie, de votre enseignement.
Oui, je suis enseignante en histoire géo, donc en enseignement moral et civique. Et donc, moi, je dis toujours à mes élèves que je n'ai pas peur, parce que la laïcité fait partie des principes de la République. Et jamais j'oublierai mon collègue qui a été assassiné de cette façon. Et je leur redis à chaque fois que la laïcité, c'est une chance d'avoir une liberté de conscience et le choix d'avoir une religion ou pas. Donc, voilà.
Vous le faites, vous dites sans avoir peur. Au quotidien, ça se passe bien avec vos élèves? Ils vous suivent là-dessus? Ils vous comprennent?
Oui, très bien. J'ai la chance de pouvoir enseigner sans problème. Moi, par contre, vraiment, je pense à mes collègues qui peuvent pas enseigner la laïcité, mais moi, je l'enseigne, comme le droit de vote, comme les problèmes de discrimination dont vous parliez tout à l'heure.
Les discriminations au logement, toutes ces choses-là, vous pouvez en parler avec vos élèves. Sophie, et c'est aussi à ça que je voudrais que vous puissiez réagir, Michael Paty, ce sont ces témoignages de professeurs, certains qui disent avec, on le sent presque une émotion dans la voix, Sophie, quand vous dites, voilà, moi je pense sans cesse à mon collègue Samuel Paty, vous en rencontrez beaucoup, qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce qu'il existe encore le pas de vague?
Oui, il existe encore le pas de vague, il est vraiment omniprésent. Après, vous voyez, on a un peu deux discours. On a des enseignants qui sont véritablement confrontés à des énormes difficultés à faire passer nos principes et nos valeurs, alors que d'autres ne sont pas confrontés. Donc c'est difficile de réussir à faire une sorte de réveil global, puisque tout le monde ne se sent pas concerné par le problème.
Certains ont évoqué la question de la panthéonisation de votre frère. Le ministre de l'Éducation nationale dit qu'il faut y réfléchir. Quelle est votre position là-dessus?
Moi, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop tôt. Parce que rentrer au Panthéon, c'est un petit peu une sorte de consécration quand il n'y a plus de débat. En fin de compte, le cours de mon frère a fait consensus que tout le monde est d'accord. On n'en est pas encore là. La preuve, c'est qu'il suffit simplement de venir 5 minutes au procès et vous comprendrez que ce cours fera encore débat. Donc, autant je suis pour, mais autant je pense qu'il...
Pour vous, ça n'est pas la priorité.
Ce n'est pas la priorité. Il faut d'abord rétablir, corriger tout ce qui ne va pas au sein de l'éducation nationale.
Au sein de l'éducation nationale, vous dénoncez sans relâche l'entrisme islamiste, non seulement dans l'éducation nationale, mais aussi dans notre société. Est-ce que vous êtes entendu là-dessus, aussi par les politiques? Est-ce que vous avez ces échanges-là?
Avec certains, j'ai pu avoir ces échanges-là. Néanmoins, je pense qu'il y a quelque chose qui est encore difficile à faire passer comme message, c'est que l'antislamisme a une porosité avec le terrorisme. Et je pense que le procès de mon frère l'année dernière, c'est ça qui a été montré. Que, en fin de compte...
Que ça tue. Que dénoncer, et c'est évidemment aussi la question au cœur de ce procès, puisque ce prédicateur islamiste et le père radicalisé de cette jeune élève de votre frère, au fond, sont deux personnes qui eux-mêmes n'ont pas tenu le couteau qui a décapité votre frère, mais qui a ciblé et ensuite nourri dans l'esprit celui qui est passé à l'acte.
Oui, c'est indubitable que s'il n'avait pas été là, donc le père et
le
prédicateur qui est son soutien, qui est omniprésent. Ils échangent quand même parfois plus de 100 fois par jour sur ce sujet. Donc c'est quelque part, il y avait bien un projet derrière qui était pensé et qu'ils ont alimenté en permanence. Ils savaient le risque qu'ils faisaient prendre à Samuel, c'est évident.
Et Samuel Paty, lui-même, savait le risque qu'il encourait. Je pense régulièrement à la solitude de votre frère lorsqu'il quitte le collège et qu'il est traqué, qu'il se sent traqué, angoissé. Il a mis, et ça paraît dérisoire a posteriori, un marteau dans son sac à dos, se disant que peut-être il devrait être confronté au fait de se défendre. Il n'en a pas même eu le temps. Merci, Michael Paty, d'être venu ce matin, au matin donc de l'ouverture du procès en appel des complices de ceux qui ont été condamnés une première fois comme complices donc de l'homme qui a assassiné votre frère. Michael Paty, donc sœur de Samuel Paty, je recommande votre livre Le cours de Monsieur Paty, c'est aux éditions Albin Michel. Il est 7h50 et vous êtes bien sûr RMC. Dans un instant, la voix de droite, Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
La gauche, alors la gauche hors LFI annonce une primaire pour l'automne prochain pour désigner un candidat. Est-ce que la droite doit l'imiter?
Oui, je pense, c'est ça qui lui donnera sa chance et qui fera émerger un chef.
Vous nous le dites dans un instant. Il est 7h50 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Et comme tous les lundis, c'est la voix de droite sur RMC. 7h52, bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour,
la gauche, hors LFI, prête à une primaire. Ce sera même le 11 octobre prochain, déjà la date. Alors à droite et au centre, les prétendants appellent éventuellement quelques candidats à se parler, en tout cas en se disant qu'il faudrait une sorte de corpus commun. Bon, vous êtes la voix de droite, il faut que la droite fasse quoi?
Il faut que la droite fasse la même chose. Et votre voix de droite, Apolline, je vous le dis, se désole d'une chose. Nous n'avons, au centre et à droite, plus de chef, plus de ligne, plus de projet. L'empire de l'UMP s'est effondré et a laissé derrière lui des dizaines de petits états successeurs. Depuis Nicolas Sarkozy, la droite et le centre n'ont cessé de se diviser, de se chamailler, de se disperser. Il y a désormais plus de candidats au centre droit qu'il n'y a de jours dans l'année. Si cela continue, attendez-vous un duel Mélenchon-Bardella au deuxième tour. Deux représentants, eux, de partis unis, cohérent et motivé.
La primaire, c'est une solution?
Je le pense et j'y suis favorable. Pourquoi? Parce que le conflit fait émerger un vainqueur. Parce que la démocratie vit non pas du consensus, mais de la confrontation. Je ne m'inscris pas du tout, chère Apolline, dans une politique de l'unité. Au contraire, laissons les princes s'affronter. Laissons-les se dévoiler. Laissons-les saigner. C'est ainsi que naît ce qui manque aujourd'hui aux prétendants, la légitimité. La France est un pays intransigeant, elle n'accorde pas sa confiance aux plus sympathiques, ni même aux plus rassembleurs, elle la donne seulement aux vainqueurs.
Mais enfin, c'est contraire à la négociation qui d'habitude est prônée par ces hommes de droite.
Rien n'est moins français que cela, chère Apolline. La France est bonapartiste en tout. Il nous faut un chef, c'est même évident. Dans notre sport, nous n'avons pas des équipes de football construites autour de quelques joueurs solides qui s'effacent pour le collectif, comme en Italie ou en Espagne, par ailleurs. Nous avons un Platini, nous avons un Zidane, nous avons un Mbappé. Si la droite et le centre veulent renaître, c'est avec un chef auréolé de victoire et un projet qui a conquis les autres qu'ils y parviendront.
Le Rassemblement national semble aujourd'hui extrêmement puissant, en tout cas dans les sondages et les intentions de vote. Quel est le projet qui permettrait à la droite, effectivement, d'y faire face?
Oui, le RN est puissant, très puissant, mais unidimensionnel. Il règne sur le régalien, plus personne n'en doute, mais balbutie et trébuche sur l'économie, sur l'international, l'assistanat, sur le social. La vérité, c'est que le RN est un parti socialiste anti-migratoire. Non, ils ne sont pas fascistes. Pire, ils sont incompétents. Si la droite veut renaître, elle doit s'incarner dans le vide qui laisse la baisse massive de la fiscalité, la réduction de la dépense publique, la glorification du travail et de l'entrepreneuriat, la démographie, la culture, le rayonnement international, réduire l'immigration, oui, et les impôts, assurer la sécurité et le pouvoir d'achat, faire l'amour pour relancer les naissances et briller à l'international. C'est là que les Français nous attendent.
Il y a une partie du programme au moins qui globalement devrait pouvoir faire consensus. Vous voyez aujourd'hui quelqu'un prêt à incarner ce projet, ou alors au contraire vous vous dites justement c'est pour ça qu'il faut une primaire?
C'est pour ça qu'il faut une primaire, pas encore de champion. Je laisserai les combats à venir le couronner ou la couronner, mais je dirais ceci: trop souvent les personnalités du centre et de la droite ont eu peur de la radicalité. Je pense que c'est une erreur. Notre époque est radicale. Les gens hurlent au changement, au mouvement, à l'action. Il faut l'incarner. Les jeunes de ce pays en particulier sont les grands oubliés, les grands exploités de notre système. Souvenez-vous du mouvement Nicolas qui paye. Si nous n'allons pas les chercher avec les dents, nous risquons de les perdre à jamais.
Merci Louis Sarkozy, la voix de droite sur RMC. Vous serez de retour mercredi, demain ce sera la voix de gauche, Cécile Duflo. Et puis notez, tiens, qu'à 8h30, mon invité dans le face-à-face, ce sera Raphaël Glucksmann. Justement, est-ce qu'il participera à cette primaire de la gauche qui a donc été lancée ce week-end par le Parti Socialiste, en tout cas par Olivier Faure? Demain, 7h50, je le disais, la voix de gauche. Dans un instant, le journal de 8h, et juste après
merci
le journal, merci Louis Sarkozy, juste après le journal, ce sera l'économie avec vous, Emmanuel Lechypre. Emmanuel, on risque de toucher un peu moins de notre salaire à la fin du mois.
Mais oui, quelques euros en moins sur la fiche de paye, c'est pas la faute de votre patron, je vous explique tout.
À tout de suite, 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.